France Inter.
La bande originale. Bonjour. Vous dit, avec Lisa Delmoitié, Laura Domange, Bruno Péquy, produit sur rôle de l'AF.
Oui, bonjour.
Et nos invités Leïla Bechtier et Jonathan Lambert.
Oui. Jonathan Lambert,
J'apprécie, c'est la meilleure présentation.
Jonathan Lambert,
pardon.
Mais c'est lui. Je l'aime, Jonathan.
Mais moi aussi, je l'aime.
Alors, on l'a refait. Allez.
C'est du direct. Attends, c'est du live. Il faut assumer tous ces trucs.
J'assume totalement cette erreur que j'ai commise. D'autant que j'aime de moins en moins Jonathan Lambert, qui n'a rien à voir avec le talent que vous avez, Jonathan Cohen.
C'est dégoûtant.
Et c'était justement pour aider un acteur dans la peine que je voulais citer. Je ne sais pas comment m'en sortir, c'est pas grave. Je n'ai pas d'auteur, je n'ai
on
pas d'impro,
je n'ai pas d'auteur.
Non, voilà. Pas bon, je suis désolé. Jonathan Cohen et Leïla Kaddour qui sont dans ce film.
Ah, ils sont les sortis.
Sylvie Vartan, film de Ken Scott qui sort aujourd'hui, demain. Au cinéma. J'ai les enquilles.
Ouais, c'est bien. Tout va bien.
Elle va durer 1h30 cette émission. Ça va être très long. Une histoire vraie, à la fois drôle, émouvante et bouleversante. Mais j'ai chialé comme c'est pas permis. Vous passez par tous les états, Leïla, parce que ça, c'est toute une vie. Oui, il n'y a pas Jonathan Cohen dans un premier temps, parce que c'est un enfant qui grandit et c'est
la maman.
Sa vie d'adulte. Mais vous êtes la maman de combien d'enfants d'ailleurs dans le film ?
Six enfants.
Ouais. Et le dernier enfant, le dernier né, a un handicap. Non, pas handicap.
Alors justement, la mère ne dirait pas ça.
Le pied beau, et tout le monde lui dit il faut l'appareiller, il faut le soigner, il faut s'en occuper. Et il n'en est pas question pour elle.
Il n'est pas question qu'on appareille cet enfant, puisqu'il n'est pas handicapé.
Et qu'on parle d'handicap.
Mais il ira à l'école tout seul la première fois en marchant.
Exactement. Et ça peut durer très longtemps. Et le personnage de Jeanne Balibar a un poids aussi dans cette fiction. Avec le moment où il est qui vous êtes, Jonathan Cohen, c'est-à-dire il se met à marcher, il se met à vivre. Et là, la mère est toujours présente.
Oui.
Et là, elle est omniprésente.
Oui, et omnisciente presque. Mais oui, c'est comment maintenant s'affranchir d'une maman qui a accompli un miracle, qui en doit tout.
Ouais.
Et c'est très compliqué. Et lui, il ressent énormément de culpabilité à essayer de vivre sa propre vie.
Alors, toutes les mamans ont commis un miracle en nous mettant au monde.
Bien sûr.
Déjà, d'où le petit tour de table. Qui a eu un moment de gêne par la présence, l'omniprésence de sa mère, Lisa Delmoitié?
Ma mère, elle raconte une histoire et ça part toujours bien. Et à un moment, elle va ajouter une info gênante.
Tu veux dire dans les dîners de famille ou devant les potes.
Un jour, mon père s'est fait piquer par une abeille, peu importe, et il a une réaction allergique. Et pendant des années, à chaque repas avec des amis, il disait oui, il s'est fait piquer, et il a eu tellement transpiré, il sentait l'urine. Et chaque repas,
t'es pas obligé.
Terrible, mon père savait plus.
Laura.
Et je viens de le raconter maintenant.
T'as pas pu s'en empêcher.
Mon père s'en a pissé.
En fait, c'est le passage de relais. C'est toi maintenant qui va raconter cette
histoire. Je suis très proche de ma mère et elle m'a fait beaucoup penser à votre personnage dans le film. Et il se trouve qu'à un moment donné, je jouais dans un théâtre qui était dans sa rue. Et là, c'était l'open bar de Je viens tous les soirs. Et il n'y a pas de frontière entre eux, c'est ma fille et c'est son travail. Tu vois, le truc, surtout, on fait un métier où les gens, ah, sympa, nanan. Bon,
comme dans le film.
Voilà, exactement. Et un soir, à la sortie du spectacle, j'y avais des journalistes qui venaient me parler. Vraiment, je le voulais, cet article dans Télérama, tu vois. Et ma mère me dit « Attends, je vous interromps, madame », elle dit ça à la journaliste. « Tiens, j'ai des culottes propres. »
Oh là là, la vache.
Et donc, elle m'a apporté.
Est-ce qu'elle connaît le père de Lisa ?
Comme si j'avais besoin de culottes.
Très bien.
Alors, comme ma mère m'a beaucoup fait penser au personnage que vous incarnez, Leïla Bechti, je ne dirai rien, parce qu'elle ne tolérerait pas que je dise quoi que ce soit. Donc voilà, je suis vraiment dans le thème. Non, non, non. Non, j'ai... non, non.
Jamais.
Non, parce que c'est toujours mu par par quelque chose.
Évidemment,
au fond,
ça part d'un bon sentiment.
Que moi, ça me fait surtout rire. Ça me, c'est pas vraiment des. J'assume complètement même les maladresses de ma mère en public.
Ah. Les premières soirées que j'ai faites en tant que disque jockey, animateur et autres, je m'habille pour aller faire la fête et donc le DJ de fête d'étudiants. Et ma mère me dit mais tu peux pas aller animer comme ça juste avec un pauvre t-shirt. Et elle me dit non, il faut c'est un spectacle, il faut que tu aies quelque chose de spectaculaire. Je dis non, ça va aller maman. Non. Et donc elle est allée chercher un chemisier à elle. Qu'elle a décousu, recousu pour que je le porte. Mais donc j'avais les manches qui arrivaient à mi-bras, les épaules qui étaient trop et j'avais le chemisier de ma mère pour la première soirée. Je vous raconte pas le nombre de vannes que j'ai eues.
Ah parce que tu as été avec.
J'étais, mais évidemment, évidemment, j'avais pas le courage de faire genre oui je le mets et de le changer avant. Non. J'ai, sincèrement, en plus, j'ai cru que ça allait le faire. J'assume. Bruno Pecky.
Ouais, moi, beaucoup de gêne avec les premières filles que j'ai fréquentées, quoi, avec ma mère qui s'immisce un peu dedans. Moi, j'avais eu une fois, sortie du collège. Non, pas dedans, c'était peut-être pas le bon mot choisi.
T'as raison,
c'était peut-être pas
le. Si t'as une vidéo, ça peut être le bon mot.
Non, mais sortie du collège, je devais avoir 13, 14 ans et je suis en train de parler avec une fille qui me plaît énormément. Je suis dos à la rue, à la route. Et à un moment, la fille arrête de me regarder, de parler et tout. Elle dit, mais je pense qu'il y a une dame qui est perdue sur la route. Et je me retourne et il y a une voiture qui arrête, qui plante au milieu de la rue, qui bloque toute la circulation. Ma mère à l'intérieur, qui baisse la vitre, qui fait, bah alors Bruno, tu me la présentes pas? Et là, c'était très gênant. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles de cette fille.
Tanguy, ta mère, je croyais.
À la sortie d'un spectacle, je vous assure que je le voulais, cet article dans Télépoche. Et je me dis, tiens, voilà des culottes sales. Et bon, bah, du coup, voilà, tous nos petits trucs en famille.
Sont
tombés dans le journal. Je suis désolé. Ça s'est fini. Bah, j'ai eu l'article, mais sur le catalogue de la Camif. Voilà, la lingerie. Donc, j'étais super content.
Tu te sauves pas avec une vanne. C'est pas cool. Oldelaf.
Sixième, arrivé au collège, je connais personne et tout, et puis je me rends compte en arrivant en cours de maths que j'ai pas ma trousse, jusqu'au moment où la porte de la classe sonne. Bonjour, je suis Madame de la Fosse. Bichon, tu as oublié ta trousse à la
Bichon,
maison. Fin de l'espoir, fin de l'amitié, psychothérapie.
Et Bichon à vie.
Bichon à vie. Mes amis m'appellent encore Bichon.
Leïla,
je comprenais pas cette carrière.
Un souvenir d'une. Encore une fois, c'est un geste qui part d'un bon sentiment de maman.
Je sais. Bah ouais. Vas-y, Jojo, et je
réfléchis. Moi, c'est pas tant ma mère. Moi, j'ai des trucs de famille plus des gènes. Au théâtre, jouer un jour...
C'est la meilleure histoire.
La Garce, une pièce de La Garce et tout. Et c'était... la scène était en bifrontale. Il y avait du public à gauche, du public à droite. Et nous, on jouait au centre. Et il y avait ma famille qui était là. Et là, d'un coup, je rentre. J'entends déjà, alors qu'il y avait un silence de rue, « Regarde, c'est Jojo !» Bon, ok, allez, c'est parti, ils sont à gauche. Et donc, je continue à jouer. Et là, d'un coup, j'entends...
Le papier de bonbon ?
Ah non.
Les papier à le bal.
Ah non.
Mais non.
Papier alu.
Et ça commence à becter pendant que je joue. Et là, je fais, je vais les déboîter. Et je les retrouve à la fin, donc la représentation. Une tante à moi qui est là, qui me fait, tiens, je t'ai préparé un sandwich. Mais non, tata, faut arrêter de bouffer pendant les spectacles. Et à un moment donné, je parle avec une spécialiste de la Garce qui a très bien connu l'auteur. Et de loin, j'entends mon nom qui fait Jojo! Jojo! J'ose pas me retourner parce que c'est vraiment, je sais ce qui va m'attendre. Et elle fait, je crois qu'il y a un monsieur qui vous appelle derrière. Je fais, ah bon, vous êtes sûr? Comme ça, je me retourne, il fait, Emmler! Ah putain, ouais, dernière fois que j'invite qui que ce soit.
De la famille.
De la famille au théâtre.
Mais là,
non,
c'est
ça m'a fait penser une fois où c'était une avant-première, il y a 10 ans, et ma famille est au premier rang, et c'est la fin du film, on arrive sous les applaudissements, et j'ai vraiment 2-3 membres de ma famille qui me regardent et qui me disent « On n'a pas aimé
oh. !» Mais non.
Mais c'était pas méchant, méchant. C'était une conversation pour eux. Pour eux, en fait, on est avec...
Ils avaient oublié toute la salle.
On est dans le salon et on se parle tranquillement. Donc voilà, j'avais le réalisateur à côté de moi.
Non, mais ils sont cash, en fait.
Alors, c'est une histoire vraie. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui a été écrite, et c'est une mise en abîme, d'ailleurs. On a cette référence dans le film, cette histoire écrite par Roland Pérez, qui est republiée aux Escales, qui façon beaucoup mieux, parce que maintenant, il y a Leïla Bekti
en couverture.
Donc,
c'est
évidemment,
la classe d'être la couverture d'un livre.
Ça, c'est la classe. Avec ce travail de maquillage, de jeu, d'interprétation qui est absolument formidable parce que on va voyager au milieu de pratiquement 30 ans de vie avec un travail de ouf sur les décors, les costumes, les références que l'on peut avoir, les décors de rue, enfin je veux dire c'est vraiment du vrai beau cinéma avec tout le respect que je dois au cinéma en général, mais là on est vraiment au spectacle, ça c'est sûr, et avec une dimension humaine qui est bouleversante.
Oui, on est doublement au spectacle avec ce personnage d'oratrice exceptionnelle, capable de faire pleurer tout le monde. D'ailleurs, on est nombreux autour de la table, je crois, à avoir pleuré dans le film.
Tous.
À émouvoir, à être... C'est une figure de mère indépassable, en fait. C'est tellement... Elle est généreuse, elle veut le meilleur pour ses enfants. C'est tellement beau, ça, comme personnage
et elle
incarné.
Elle est prête à tout, et c'est là où la comédie rentre. En jeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas douter de sa sincérité, mais ce qu'elle va faire, c'est illégal, dans l'éducation en général. Elle franchit des limites.
Il y a sa loi, elle, voilà, qui est supérieure.
Et puis il y a Sylvie, dans le film, il y a Dieu, puisqu'il y a Jonathan Cohen.
Alors lui,
je me rattrape
Jonathan
Lambert, vu le début
foireux, ouais. Avec Jonathan Frisco.
Mais il y a la véritable Sylvie Vartan aussi, on en parlera jusqu'à midi et demi, mais voici quelqu'un qui est fan de vous, Leïla et Jonathan, c'est Anne.
Oh oui, on l'aime.
C'est le Sylvie Vartan. Je suis fan de Leïla Bekti. Je suis fan depuis Tout ce qui brille. Mais je veux mettre les choses au clair maintenant. Je sais que ce titre c'est pour se moquer de mon front luisant. Je suis fan de Jonathan Cohen. C'est le frère du chanteur de Nirvana Kurt Cohen. On a joué ensemble mais ça te ralentit pas du tout. Ça cartonne vraiment pour toi malgré Serge le MeToo. Et vous êtes là pour nous parler de ma mère. Chiant, bah ouais. Enfin aussi de Dieu et de Sylvie Vartan. Les trois ont eu un enfant qui a bien réussi. Sauf le fils de ma mère qui bosse avec Nagui. Tous les deux le succès vous a tourné la tête. Je remarque, vous vous habillez plus qu'avec des fringues de... Mais on reste potes, j'ai même eu beaucoup d'émotions. Merci Joe pour ce que tu m'as dit avant l'émission. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Là, ça fait boum boum dans le cœur. Je te promets, là, j'ai été perturbé par tous tes mots, ton et ces conseils surtout que tu m'as donné sur ma vie. Merci, frère. Tu m'as dit que j'étais fait pour Leïla Bekti. J'ai dit Jonathan, arrête, je crois que Leïla a pas envie. Tu m'as dit Leïla Kadour Boudadi. Tu la croises tous les jours, mais elle me trouve un peu con, du coup je fais quoi? Elle aime pas mes chansons, du coup je fais quoi? Mes blagues elle est pas pour, du coup je fais quoi? Si je sais qu'elle m'aime, c'est plus la même. Je lui dis, Leïla, on part vivre à Angoulême dans un HLM, je quitte pour toi. Même si tu es toute blême, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse Bekhtier, Cohen, Nagui à l'antenne et viens avec moi. Laïla, la 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 la. Ouais, je suis fan, mais y'a un problème. Oh, mon nom c'est Old Lafpa.
Old El Paso!
Bah ouais, vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Avec Opération Bretzel le 26 mars à Tignes, le 29 mars à Bully-les-Mines, avec beaucoup de refs évidemment sur la carrière et les personnages de nos invités. À propos de personnages, quand on fait un film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, ce n'est pas le même film lorsqu'il y a...
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser.
Et j'y croyais pas. Autant on en avait parlé de ce projet lorsque vous étiez venu il y a quelques mois, voire années. Mais avoir Sylvie Vartan en plus dans le film avec cette histoire vraie, c'est extrêmement émouvant. Parce que évidemment, ça rajoute du crédit. Et qu'elle est une super actrice, en plus, faut pas l'oublier. On retient évidemment les chansons, mais elle joue extrêmement bien. Le projet ne tenait que par sa présence. Il fallait absolument qu'elle soit là. Comment vous avez suivi cette histoire-là dès le début, elle y était.
Je sais qu'elle n'a pas hésité une seule seconde. Ce que Ken disait, elle fait partie intégrante de cette histoire. Ça aurait été tellement dommage. Elle tient du miracle, leur histoire à Roland. Enfin, l'impact qu'a eu Sylvie dans la vie de Roland, c'est fou. C'est fou.
Histoire vraie, Roland Pérez est dans le film. Il y a un caméo à vous de le retrouver dans ce film, mais l'auteur est là. L'histoire vraie, donc, d'un enfant qui a un problème à son pied droit, si j'ai bonne
mémoire.
Oui, c'est le 3. Quelle mémoire. J'ai travaillé. Personne n'a cette mémoire.
C'est les noms de famille qui l'a pas.
J'ai mémoire des pieds, mais pas des noms.
Oui, c'est ça.
C'est déjà ça, hein.
Sélectif.
Enfin, j'ai une chance sur deux. Alors, jusqu'où on peut raconter ? Oui, il y a un miracle. En fait, cette maman va s'occuper de l'éducation de son enfant par le prisme aussi de Sylvie Vartan, dont il est totalement fan. Il ne grandit qu'avec les photos, les histoires, les interviews, les chansons.
Il apprend à lire, à écrire avec les chansons de Sylvie Vartan, vu qu'il est déscolarisé et qu'il est alité au milieu du salon, en vrai.
Pour sa rééducation, la condition sine qua non, il doit savoir lire.
Il doit savoir lire et écrire et il apprend justement à lire et écrire avec les chansons de Vartan, vu qu'il est passionné par Vartan. Ça, c'est...
Et passionné aussi au point de faire dans un fanzine une interview, une première rencontre qui est faite. Ça aussi, histoire vraie ou il y a un début de fiction ?
Non, histoire vraie là-dessus. Il se rencontre quand il est journaliste, on va dire un peu musique. Pour un fanzine
En étant disquaire parallèlement.
Exactement, en étant disquaire parallèlement, il connaît tout de Vartan et donc il va pour l'interviewer et bien plus tard, il devient avocat et là, pour le coup, on balance tout le film.
C'est la question.
Et ceinture noire de Jujitsu. J'essaie de jeter un petit...
5 médailles d'or, quand même.
5 médailles d'or aux Jeux Olympiques, c'est pas dingue. Avec Sylvie Vartan.
Ils sont plus beaux, en plus, quoi.
Et là, je pense que... Malgré tout ça.
C'est l'histoire de l'amour d'une mère pour son fils. Et inversement, parce que c'est ça aussi qui est beau et qui est bouleversant jusqu'à la fin du film. Oui. C'est à quel point ces deux-là s'aiment. Ça n'efface pas la présence de la famille, parce qu'il y a 50 enfants.
Presque, ça efface au moins la présence du père. On a l'impression qu'elle est tellement tout pour ses enfants. Ouais. Votre personnage, Jonathan Cohen, à la fin, sans dévoiler, il a un rapport très distancié avec les autres.
C'est-à-dire qu'en tout cas, on sait que dans la vraie histoire, le père s'occupait des autres enfants. Du coup, elle focalisait son attention sur les autres enfants aussi, mais essentiellement sur Roland.
Et les autres enfants vont aussi aider. C'est-à-dire qu'ils
ils prennent pas
en grippe le frangin parce que c'est le chouchou.
C'est ça qui est beau aussi, c'est cette histoire de famille.
Ouais.
C'est une équipe
et
chacun est à un poste mais c'est vrai, c'est aussi un film sur l'abnégation, sur ne rien lâcher, et puis sur la transmission aussi. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on transmet, nous, à nos propres enfants?
On garde la porte sur laquelle il y a la toise et les enfants. Ouais. Non, mais il y a plein de signes comme ça qui sont des madeleines pour chacun d'entre nous, parce qu'on trouve des repères au-delà de la génération, du cadre et de l'histoire, mais on voit l'amour qu'il y a dans une famille. Chacun, on l'a entendu en début d'émission, a son histoire de famille et son rapport avec sa maman. Mais tout ça, c'est l'amour le plus fort et le plus beau qui est porté. Et tout ça, et encore une comédie, et aussi des larmes. C'est la magie de ce film. Il arrive à faire rire et à faire pleurer.
Mais c'est la magie de Ken Scott aussi, qui est un peu un expert du genre, parce qu'il avait fait quand même, pour moi, un des meilleurs films du genre, Starbuck.
Ouais.
Qui était vraiment un petit bijou de dramédie, on va dire. Et
surtout une formidable marque qu'il a lancée à travers le monde entier.
Bien sûr, il est devenu immensément riche. Et là, il n'avait même pas besoin de faire ce film, en vrai. Il l'a dit, c'est parce que là, ça me fait chier.
Non, mais c'est un film qui rend tellement hommage aussi à toutes les mères.
Bien sûr.
Ces mères sacrificielles aussi, parfois, parce que finalement, on ne la voit qu'à travers ses enfants. Cette femme, elle n'a passé sa vie qu'à faire ça. Et c'est pour ça qu'on a même de la tendresse quand elle peine à laisser ce petit dernier partir, parce qu'en fait elle lui dit, et vous le dites tellement avec, c'est tellement beau quand vous lui dites tu es ma vie, en fait. On le fait en arabe, ça fait quoi?
Mishkpar.
Ouais, c'est tellement beau ça, et on a envie de se dire que cette mère là c'est une sorte de mère indétrônable, en fait, dans l'affection qu'elle porte. Moi, ça m'a énormément émue.
Mais surtout qu'elle va
bravo, Leïla.
Elle va se battre. Bravo, John.
Oui, non, mais je parlais de la mère.
Elle va se.
Non, mais pas jaloux.
On prend chacun le sien, il n'y a pas de problème.
On
partage les pouvoirs.
C'est vrai.
Le château, il y a combien? T'as pris un billet de 5 euros. J'ai pris les pièces, je le montre. Allez, on partage.
Non, ce qui est bouleversant, c'est de voir comment cette famille va traverser toutes ces épreuves. Épreuves de la société, épreuves du regard des voisins, épreuves des écoles. C'est-à-dire, on est dans le jugement et on se mêle de l'éducation avec mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'ils décident, pourquoi ils font ça alors qu'ils ne sont pas dans la norme. Et c'est ça qui est formidable, c'est que rien n'est normal.
Et puis rien ne l'arrête, parce que j'ai dit souvent qu'on peut rien faire contre une mère convaincue. Ouais. Et ce qui m'a plu, moi, c'était de jouer une conviction. Et en même temps, c'est un personnage qui est jamais en colère. Qu'on n'ait pas la même conviction qu'elle. Elle a une foi inébranlable en la guérison de son fils. Elle va tout faire. Et en même temps, ce que disait tout à l'heure Jonathan, ça parle aussi d'émancipation. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai aimé le personnage d'Esther parce que j'ai aimé ses qualités, mais j'ai aimé jouer ses défauts aussi parce qu'elle en a aussi beaucoup. Elle est très intense.
Ça, c'est la partie comique. Elle
est, voilà,
très drôle. Ouais.
On en rit. Et voilà, vous l'avez compris, extrêmement bien joué par Leïla Bekhti, par Jonathan Cohen, Joséphine Japy également, Sylvie Vartan dans son propre rôle, Jeanne Baliba.
Ouais, Jeanne Baliba, extraordinaire.
Et Lionel Drey qui joue le papa.
Oui. Exactement. Naïm Nagy également. Ouais.
Anne Leni, toujours tu perds.
Anne Leni, David Ayala.
Jonathan Lambert aussi.
Et Milo. Et Milo Machado.
Je demande de le reconnaître dans le film. Il est encore une fois un personnage.
Il joue pas un enfant, un petit rat de l'opéra.
Et là, il peut tout jouer, vous savez.
Surtout les rats.
Il peut.
Voici Lisa Delboîtier. Vous n'auriez pas adapté le roman comme ça. Même le roman, vous ne l'avez pas écrit comme ça.
Non. Enfin, il y a un truc que je ne comprends pas. Leïla Bekhti, vous jouez une maman prête à tout pour donner à ses enfants la meilleure chance de réussir dans la vie, mais vous leur donnez comme prénom Roland, Edmond, Richard, Nicole, Jacques et Jacqueline. Pardon, mais les prénoms des années 60, quelle sortie de route cette décennie, c'est passé quoi hein? En termes de handicap, pardon, mais avoir 16 ans et essayer de pécho en s'appelant Edmond, on est juste en dessous du pied beau. Hein, enfin, vraiment, c'est de l'acharnement. Ou Roland, et j'ai bien conscience que le vrai Roland arrive, mais à 11h46, j'ai prévu d'avoir une urgence téléphonique. Depuis le temps que j'attends un don, on m'a enfin trouvé une prostate. Voilà. Là, je dis ça, mais les bébés qui ont des prénoms ringards, c'est quand même trop mignon, quoi. Les bébés qui s'appellent Jacqueline, mais quel kiff. Franchement, c'est mon truc préféré après les animaux qui ont des prénoms d'humains. Quand quelqu'un me dit, je te présente mon cochon d'Inde, Jean-Jacques. Enfin, moi, c'est direct lui, quoi. Bon, mais au-delà du prénom et du pied beau de votre personnage, Jonathan Cohen, ce film parle surtout du pouvoir de l'amour d'une mère pour transcender la réalité. Les mères sont si fortes, hein, on l'a dit. C'est comme si la maternité décuplait ta résilience. Et il y a quoi dans le placenta? Ça se sniffe, enfin, en réalité, ça se mange. Oui, bon, voilà, on t'attaque, quoi. Non, bah, pas moi déjà. Qui? Ok. Vous savez que Marie Curie, tout en gagnant le prix Nobel, faisait l'école à domicile à ses filles. Mais les mamans, putain, quoi. En attendant, je fais quoi, moi, nulle part? Oui. Je me convainc que je me suis fait un petit ice coffee quand le matin j'ai la flemme de passer au micro-ondes le reste de mon café d'il y a 3 jours. En Italie, on appelle ça un shakerato. Et ici, on appelle ça un reprends-toi en main, Lisa. Ça prend 3 ans quand même, mais il faut pas de temps d'avancer. Non, mais là où je me reconnais dans votre personnage, par contre, Leïla, c'est dans son refus de se laisser limiter par la réalité, quoi. Elle prie pour que son fils puisse marcher. Elle y croit, même si on la traite de folle. Et moi, on m'a déjà dit aussi que j'étais folle. Tout ça parce que mon meilleur ami est un lampadaire de 32 ans. Il parle pas beaucoup, mais il est brillant. Non, mais on m'a dit que j'étais des louges, non. Ce qui traduit littéralement donne délusionnel, ce qui n'est pas un mot, mais la délusion, si. C'est l'état de celui dont la croyance ne se dissout pas à la confrontation avec les faits. Ouais. Et j'assume, moi je suis comme ça. Je m'en fous des faits, ok? Macron, c'est un lézard et la terre, elle est plate. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je me laisse pas limiter par le réel, quoi. C'est comme cette mère qui refuse de limiter son fils à son handicap. J'assume, moi je suis des lulus, quoi. Nos croyances permettent de changer le réel. Vous croyez que je serais devenue humoriste sur France Inter si je m'étais laissé limiter par le fait qu'il dit que soi-disant, pour être humoriste, faut être drôle? Eh ben non. Tous les jours, je trouve que c'est des conneries, ok? Hein? Moi, quand je veux un truc, je prie pas. Mais je me fais des mood boards. Ouais. Voilà, moi je fais ça. Oui, nous les athées, on a remplacé les autels par des tableaux en liège sur lesquels on écrit quand on veut, on peut. Voilà. Quand je veux quelque chose, j'essaye d'agir comme si je l'avais déjà, hein, comme si c'était déjà réel. Et au mieux ça marche, au pire je vis dans un fantasme qui n'est pas la réalité, certes. Mais enfin, no offense pour la réalité. J'ai jeté un coup d'œil, je suis pas intéressée. Hein. Et le réel, entre Trump et mon acné dans le dos, engage un scénariste, hein, frérot, parce qu'elle est éclatée ton histoire. Donc vive les gens delusional, vive les mamans qui changent le destin de leurs enfants à la force de leur croyance. Et pitié, relancez le prénom Roland, quoi.
Merci, bonsoir, à tout à l'heure. Roland Pérez sera avec nous aujourd'hui, avocat, et c'est son histoire qui a été l'objet du roman Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, et qui est au cinéma à partir de demain. Ce qui est bouleversant aussi dans ce film, c'est que c'est un cri d'amour d'une famille. Chacun le voit avec son prisme, mais ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs parents, à mon avis, ils sortent du film, ils ont juste envie de leur faire un énorme câlin en disant « Waouh !» Qu'est-ce que je vous aime. Et puis ceux qui ont la chance d'être parents aussi, c'est de se dire tout l'impact, le rôle que l'on a, le poids que l'on a dans l'éducation et dans la transmission. Et c'est ça qui est fort. C'est une histoire vraie, c'est bouleversant, c'est drôle, c'est extrêmement bien réalisé et interprété, mais surtout ça donne envie, quoi. On sort de là, on n'est pas totalement indemne.
On est rempli de quelque chose, ouais. Et on a effectivement, là, quand on rencontre le public, là, on a fait quelques tournées, dates de tournée.
Quelles sont les réactions?
Ben en vrai, on voit les gens très très émus, et effectivement après quand on passe aux questions, mais il y a beaucoup de témoignages de gens qui parlent de leurs parents, de eux-mêmes parents, des combats qu'ils ont dû mener, de cette envie justement de dire bah là, j'ai envie. Il y en a un qui est venu avec sa maman la dernière fois. Ça fait deux fois qu'il voit le film et il a dit là, je tenais vraiment à ramener ma maman pour qu'elle le voie, pour lui dire à quel point je l'aime. Oh, et en vrai, c'était hyper beau. Ouais.
Très très beau. Et puis évidemment, je l'ai dit, la présence de Sylvie. Comme le jour vient, le soleil toujours. Fait évidemment partie de la bande originale. Il y a une surprise aussi pendant le film, on va pas la dévoiler tout de suite. Il y a beaucoup de musique présente. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Et des reconstitutions des émissions, on imagine Marité Gilbert Carpentier ou les Ring Parades de Guy Lux, c'est pas le marais de la chanson et autres. Tout ça est extrêmement bien fait, réalisé avec des effets spéciaux également qui viennent rajouter du crédit à toute cette histoire. Mais non, mais c'est tellement important de dire que c'est une histoire vraie.
Ouais.
Est-ce que c'est encore plus délicat de raconter une histoire vraie? C'est-à-dire, vous avez beaucoup échangé avec Roland Pérez qui sera là, vous avez beaucoup parlé avec lui, parce qu'interpréter sa maman, c'est un poids aussi, c'est une responsabilité.
Mais vraiment, Roland, la première fois qu'on s'est rencontrés, il a été d'une délicatesse et d'une bienveillance. Tout de suite, il m'a dit, il faut que tu t'appropries Esther. Il faut que tu construises ta Esther à toi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pour la suite, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de pression.
Vous lui avez pas demandé quelle était sa manière de se déplacer?
Bien sûr, je crois qu'on
son parfum.
Sans tomber dans l'imitation.
Non, mais on a beaucoup échangé. Après, je pense que j'avais la chance d'avoir un scénario très bien écrit. D'accord. Et j'avais la chance de pouvoir lire aussi il y avait le livre de
Donc
Roland.
La Bible était faite.
Voilà.
Au titre de Dieu dans le titre, mais voilà. Une référence cinématographique où on a les détails.
Exactement. D'accord. Et puis on a évidemment échangé avec Roland. Et puis après, je me suis beaucoup inspirée de ma mère, de ma grand-mère, de ma sœur, de plein de femmes autour de moi.
De vous ?
Et puis de moi, oui, c'est pas très exotique, j'en ai quatre à la maison,
et voilà.
Six. moi aussi, savez. Chez moi, le joyeux bazar, un enfant qui part, un autre qui arrive, un autre qui sort du sol.
Ouais, mais prendre des décisions, gérer aussi, et pas traîner.
Oui, c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça. Ouais. Je dis souvent que je suis pas une constateuse. Je sais que ce mot n'existe pas, mais je suis pas quelqu'un, mais depuis toujours, mais encore plus depuis que j'ai les enfants, je ne me pose pas 1000 ans sur le problème. Oui. Je veux trouver vite des solutions. Le problème est déjà là, donc.
Le tournage du film a un rapport avec votre maternité également?
J'étais enceinte de ma quatrième. Ouais.
C'est trop mignon.
Ouais, donc c'est encore plus fort émotionnellement. Ouais. J'imagine.
C'était. Ce que je dis, c'est que dans ce film, elle veut absolument changer la vie de son fils. En tout cas, du moins, elle veut qu'il ait la même vie que tous ses autres enfants. Et moi, je portais la vie en même temps. Donc, il y avait un espèce de... Oui, c'était... il était fou, ce tournage. C'était fou, tout ce que je pouvais... c'était fou.
Émotionnellement fou et bouleversant. Et puis, je parlais d'effets spéciaux. l'un des effets spéciaux de ce film, c'est Jonathan Cohen, jeune.
C'est bluffant.
C'est, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous jouez l'ado.
Oui.
Non, mais, c'est, non, mais je blague pas.
C'est pas 27. Ouais, rajeuni.
Oui, rajeuni un petit peu.
Il y a la fac.
Ah, oui.
Ouais,
ça, en termes d'effets spéciaux, c'est pas dingo non plus.
Mais
hein.
Quand même.
C'est y a pas ce qu'il a demandé le plus.
Le pantalon plus large, la coiffure.
Ça, c'est pour le coup, c'est cher. Ouais.
C'est ça. C'est ça. Et que vous apportez Roland Pérez dans sa préparation du film?
Roland s'est effectivement rencontré aussi. Et après, on a été relativement assez libre. Moi, j'ai un peu une Esther aussi à la maison, qui est ma maman, que j'adore profondément. Donc, je voyais le parcours, je voyais ce qu'il devait traverser aussi, surtout à ces âges-là, pour essayer de s'émanciper. Donc voilà, j'avais pas tant besoin de prendre des choses à lui. J'avais
ni,
aussi
ni d'éthique de langage, ni d'éthique.
Non,
de,
plus de... plus une espèce de réserve. Voilà, je savais qu'il y avait une forme de timidité chez lui, ouais. Qu'on ressent très fort d'ailleurs chez le petit. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je m'inspirais du petit, de son regard. Je demandais super, à avoir des images de lui, des rushs avant de pour créer une espèce de lien.
Il joue très bien d'ailleurs le nom du
Naïm. Ah
ouais. Magnifique. Ce qui transpire de lui, c'est magnifique, tu vois.
Mais d'autant qu'il ne parle pratiquement pas.
Non, mais c'est ça qui
est bouleversant.
C'est les yeux.
Il fait tout passer dans son regard.
Ouais, et ben son regard, ouais. Je m'en suis vachement inspiré, justement pour essayer de faire le pont entre les âges. Ah, ces petites billes, il est magnifique.
Formidable. Le film sort demain. Allez le voir, c'est vraiment un bijou. On en parle avec Roland Pérez dans quelques instants.
Qui est pris en sandwich entre ma mère et Sylvie Vartan, je trouve ça super. Franchement, c'est un bon signal, non?
En attendant la musique, voici Laura Doman.
De quoi vais-je vous parler cette semaine afin de vous provoquer du lol et du fun? Montée mondiale du fascisme, situation des femmes en Afghanistan, menace de guerre en Europe, que de choix pour provoquer l'hilarité. Dans la série des vraies mauvaises nouvelles, j'ai une pharyngite depuis 15 jours. Ah bah voilà, manquait plus que ça. Et qu'est-ce qui vous reste en travers de la gorge? M'a demandé mon psy, ce à quoi je lui ai répondu. Je ne suis pas certaine que vous ayez envie de connaître en détail mes samedis soirs, cher monsieur.
Mais
j'ai découvert qu'elle n'était pas si profonde. Faut dire aussi que mon pharynx, moi je ne lui laisse aucun répit. Je le sollicite tout le temps, je demande toujours des nouveaux trucs, parle sur une scène, chuchote dans le train, dit des chroniques radio, crie un mot aléatoire et laisse en silence pour le rire. Bâtonnet comble l'absence de rire en faisant l'accent amant. Ah, je n'ai pas décemment pas fait ça à l'antenne. Il est épuisé. Même pour exprimer le fait qu'il faut que je laisse un peu mon pharynx se reposer, ben je fais appel à mon pharynx. Donc il est là, il veut crier mais il peut plus y crever. Sur Wikipédia, ils disent que chez l'homme, il mesure 13 cm de longueur. Et chez la femme, eh ben il précise pas, comme d'hab, pas d'infos. Bon, alors après j'ai vu qu'il y avait un grand H à homme, donc ça veut dire tous les humains, contrairement au petit H qui lui désigne ceux qui disent que c'est pas la taille qui compte, alors même qu'ils ont inventé la notion de mesure. Mais alors, qu'est-ce que le pharynx? Eh ben, chercher. Je crois que je l'use parce que moi, mon pharynx, parce que je prends différents types de voix en fonction des situations. Je sais pas si vous faites ça aussi. Par exemple, là, j'ai ma voix de radio, dynamique, enjouée, pour essayer de faire comme mon modèle, Lisa Delmoitier. Lisa Delmoitier qui aurait pris beaucoup de cocaïne, je vous l'accorde. Mais quand la banque m'appelle, moi, je prends cette voix sérieuse. Oui. Style, j'ai eu mon brevet. Oui, bonjour. Je mets des avant les débuts de phrases. Ça fait intelligent. Oui, tout à fait. La voix de je comprends les acronymes. Oui, j'ai des agios. Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup. À zap. Contrairement à quand c'est mon meilleur pote qui me tèle, alors là, je prends la voix la plus malaisante du monde. Hey, comment qu'il va, mon pépère? Et c'est le pépère à sa mémère. Et là, il me répond, Madame Demange, il semblerait qu'il y ait des mouvements frauduleux sur votre compte. Parce qu'avec la fatigue, je me suis emmêlée les cordes vocales. AVC, c'est bien possible. Mais j'observe que moi, je suis pas la seule à moduler mon timbre comme ça. Regardez les gens qui parlent à des animaux de compagnie comme ils sont gênants, quoi. Oui, qu'il est doux, le minou. Oui, il est nounou, le minou. Oh, c'est le bon chien, ça, c'est le bon chien. Calmez-vous. Le pire, c'est avec les bébés. Moi, chaque fois que je parle à mon bébé, je me dis, mais heureusement que ça reste dans la sphère privée, parce qu'il me vient un accent très problématique. Ah. C'est le petit bébé de sa maman. Le seul truc qui serait plus bizarre encore, je me dis, ça serait de lui parler normalement. Tu es le petit bébé de sa maman. Oui. Gouzi, gouzi, les petites guillis. Je t'aime tellement que je vais t'offrir un agio le jour où j'aurai compris ce que c'est. Mais bon, si je vous parle aujourd'hui de mon pharynx et non pas d'actualité, c'est parce que contrairement aux potes, aux bébés, aux chiens, aux chats et même à la banque, l'actualité, elle, me laisse sans voix et je trouvais ça moins radiophonique.
Bravo. Merci. Bravo. Laura Domange en tournée dans toute la France et le 27 mai, tiens, pour une fois, il y aura un truc bien à la Madeleine, ça sera ta dernière. La musique avec, on l'a dit, Sylvie Vartan, Joe Dassin, T-Rex, Kelly Dunn, bien situé, parce que c'est vrai que la force de la musique, c'est aussi de savoir à quel moment, à quelle époque, à quelle période on se retrouve. Il y a la Maritza.
Maritza, c'est Marie-Hélène, comme la scène et la tienne.
Et Sylvie jouant son propre rôle dans ce film. Roland Pérez sera notre invité dans quelques instants. La musique dans vos vies. On va commencer avec vous, Leila Bekti, qui aimait tant chanter. Est-ce que vous chantiez Olivia Newton-John ? Vous refaisiez Grease à la maison ou pas ?
Toujours, mais toujours encore.
Encore ?
Bien sûr.
Oh, well, oh, well, bien well, sûr.
Non, mais elle est magnifique cette chanson. Ouais.
Hopelessly devoted to you, c'est ce qui va bien aussi avec le rôle de la maman dans Ma mère, Dieu et
Sylvie Vartan. Avec cette scène tellement merveilleuse, quand j'adore quand elle le laisse partir avant qu'il parte, qu'il franchisse le seuil de la maison. Mmh. Elle le réajuste, elle le regarde et elle lui prend le bout du nez, les bouts des joues, c'est à moi, ça c'est à moi, les oreilles, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça m'a fait fondre. Et puis vous le regardez avec une telle tendresse, c'est exceptionnel.
Merci.
Oh, et ça c'est vrai, c'est ce que faisait vraiment la maman de Roland Pérez.
J'allais
c'est vous ça
ouais, c'est moi. c'est moi qui fais ça à mes enfants. Souvent je leur prends quelque chose, je sais pas, et je leur dis ça c'est à moi, ça c'est à moi. le jour où ils regarderont le film, ils seront un peu énervés, je pense.
Tu me donnes.
Ouais, on est encore
avec tout le monde. Mais surtout, ça. Joli à raconter au psy aussi, ça.
Ouais, c'est joli.
Ouais,
c'est à moi. Ouais. La mère qui veut pas lâcher. C'est à moi. Tu m'appartiens donc.
Non, c'est à moi, non, maman.
Donc on arrête la bande originale.
Non, pardon. On était bien à débattre. 2005-2006, Leïla, on va parler de vos débuts au cinéma. C'est Chétan de Kim Chapiron. On a déjà raconté à quelques reprises comment vous êtes tombé sur cette annonce pour ce casting et surtout comment le matin même du tournage vous n'aviez encore rien dit à personne.
Personne. Ouais, c'était mon tout premier casting et oui, je dis à toute ma... J'avais tellement peur que ce soit pas vrai, que ça n'arrive pas vraiment, que j'ai attendu vraiment le début du tournage pour réveiller ma famille. Il était 6h du matin, c'était un 7 février et je les ai réveillés, je leur ai dit je vais tourner un film avec Vincent Cassel. Ils avaient les cheveux comme ça.
Hirsutes.
Et
vous allez dans la chambre de chacun en disant voilà, je vais tourner.
Non, je les ai amenés tous dans le salon. Oui. Et voilà, mais ils m'ont fait confiance. Ils ont pas.
C'est comme si j'ai gagné au loto.
Mais déjà,
en fait.
Ils t'ont cru.
Ouais, puis ouais. Bah, ils m'ont cru, mais surtout
le matin,
ils m'ont fait.
Bon, je vais tourner avec Vincent Cassel cet après-midi. Elle va dormir.
Pas trop couché. Qu'est-ce que tu racontes?
Non, mais c'était quand même. Et puis pour la petite anecdote, j'avais pas d'agent à l'époque. Et mon contrat d'actrice pour Chétan, je l'ai signé avec ma famille. Donc c'était à refaire. Je
Bah déjà, la commission n'est pas la même, surtout. 2005-2006, Jonathan Cohen, vous écoutiez. Ça va, vous allez bien? Ibiza.
Ah, si, bah oui.
Pourquoi ce titre?
Parce que je trouve qu'il fout la pêche.
C'est vrai. On est d'accord. Et là, que se passait-il à ce moment-là?
Eh bien, c'est Comme tu es belle, de Lisa Azuelos. C'est votre premier, c'est un petit rôle que vous décrochez dans ce film.
Un mini rôle, ouais.
Ouais, vous jouez un vendeur, je crois.
Ouais, un vendeur de trucs de mariage.
Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de revenir à vos années conservatoires.
Oui.
Et cette déclaration disant qu'en fait, plus on est ignare, plus on a des chances que ça marche.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire quoi?
Ben non, mais ils savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait.
Ouais.
Ben c'est vrai, pour ma part, c'est que ça ne représentait pas. À mes yeux, pas grand-chose, le conservatoire. C'était juste un concours que je voulais passer. Et parce que ça ne représentait pas quelque chose, bah, du coup, je pense que j'étais assez détendu pour l'avoir. Ouais.
En détente. Et vous dites que s'il fallait refaire ça, ça serait non.
C'est-à-dire ?
Passer au conservatoire.
De quoi ?
Mais vous avez dit, je ne sais pas si je m'étais rendu compte de ce que c'était le conservatoire.
Ah oui, si je m'étais rendu compte de ce que j'étais perdu, excusez-moi. Ouais. C'est-à-dire ? Et pourquoi ?
Et pourquoi
pas ? Mec, c'est parti. Non. Oh non. C'est un trou noir de.
Ah bon. Oui, oui.
Non, non, en vrai, si j'avais
alors
su.
On aurait invité Jonathan Lambert.
Bah, alors là, ça aurait été dire.
C'est pas ses crèmes.
Si on avait vu, c'est pas
alors là, vous avez vraiment un gars qui a un trou noir dans le cerveau. Et quoi? Non, non, c'est moi qui comprends rien, malheureusement. Mais non, non, si j'avais su ce que ça représentait, bah, je pense que je l'aurais évidemment pas eu. Tracker comme je suis.
En 2018, Leïla Bekhti, vous écoutiez. La bande originale du film,
oui,
c'est
voilà,
ça, non,
ouais, exactement. C'est dans le grand bain.
Gilles Lelouch nous avait raconté à ce micro comment il avait ressorti ce morceau de Nulle part. Imagination So Good, So Right. Et oui, le grand bain.
Le grand bain avec un bébé par film. Donc,
exactement.
Chaque bébé, en fait, ouais, mais c'est vrai, associé à un film.
Oui, chaque enfant est associé à un film, c'est vrai. Ouais.
Enfin, ça a été un moment, je parle du cinéma.
Non, on peut continuer à avoir de beaux enfants. Enfin, le grand bain, ce film qui débarque comme ça sur notre écran et qui nous emmène avec Philippe Catherine, Benoît Poulvorde, Mathieu Amalric. Quand on voit le casting, il est quand même un petit peu fou. Oui. Et vous incarnez cette prof de natation, cette coach
ouais, ouais.
Complètement dingue, complètement folle, irascible, ouais. Impossible.
J'ai eu du mal au début d'ailleurs.
C'est vrai, pourquoi?
Le premier jour de tournage, mon premier jour de tournage devait... jouer cette coach qui les insulte à longueur de journée.
Je les claque.
Et j'y arrivais pas. Je voyais Benoît Poulvorde, Mathieu Amalric, enfin tout Alban Ivanov, enfin tous ces mecs devant moi. Et Gilles coupe la scène et me dit, Leïla, il va falloir que tu y ailles vraiment.
Eh ouais.
Parce que sinon
c'est
ça marche pas.
Ça marche. Ouais, ouais.
Et j'y suis allée.
Et ça marche.
Ouais. Et enfin j'ai adoré jouer ce personnage.
Jonathan Cohen, vous écoutez à ce moment-là vous? Aya Nakamura. Mais il faut surtout qu'on parle de... Vous nous rappelez le titre?
Non.
On est sur la terre, rappelez-vous
ouais,
le titre.
Bah justement, ça s'appelle Un jour en France.
Et c'est la période de premières vacances de Patrick Cassure.
Yes.
Avec Camille Chamoun, on avait parlé de ce film dans cette émission. C'est un premier vrai rôle, c'est comme ça que c'est estampillé dans la presse. Mais
Son premier vrai rôle.
Oui, est-ce que c'est vraiment ça?
Oui, quand même. Ouais. Quand même un de mes premiers vrais rôles où je tiens l'affiche avec Camille. Moi, j'aime beaucoup ce film. Première vacances, je trouve très frais, très. Il y a du peps.
On peut revenir à Fucking Fred.
Bienvenue dans le monde de Fucking Fred, de Fucking Fred, de Fucking Fred. Bienvenue dans le monde de Fucking Fred,
ça, ouais,
de Fucking
c'est
Fred, de Fucking Fred. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas en train de le réveiller là. Je n'ai pas de limite.
C'est vrai.
Salut tout le monde, c'est moi, le football de Fucking Fred. Je suis là pour vous parler, j'aime bien dire ce que je pense.
Capoeira, 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 capoeira.
Ça commençait comme une comptine. Hey, come on, try get a big coon spot. Put in a switch
and I went on pie. And I hope we don't take and I went on pie. Et surtout, en chanson cachée, Aurel San.
Ça, c'est merveilleux, ça. Allez, tenez-vous la main. Tenez-vous la main. C'est pas magnifique qu'il ait fait ça. Ça part d'une vanne. Et il dit, bon, on va faire une vraie chanson.
Ouais, qui est très proche de son titre.
Qui est pas très loin, mais moi je lui dis, tu feras ton tube, là, ton truc, là. Tenez-vous la main, là. La terre est ronde, ouais, exact. Et il dit, c'est trop marrant si on fait vraiment tenez-vous la main.
Bah, c'est très marrant. Fucking Fred, en tout cas, le disque est arrivé là.
Il vient de sortir et tout. Le doc, il est sorti il y a une semaine ou deux.
Le rappeur germano-brésilien.
Ouais. Déjà, le rappeur, ça peut être trop. C'est déjà trop de qualificatifs.
D'ailleurs, Fucking Fred, il a fait une chanson pour sa maman.
Là, il s'appelle Muta.
Ah.
Ouais.
La chanson est totalement en allemand. Ah, ouais, bah, il faut la mettre. Hein, demander à Nagui, c'est lui qui a le paille.
Bruno Pecchi, il est germano-brésilien.
Ouais, suisso-brésilien, mais.
Oh, excuse-moi.
Non, mais.
Germanophone.
Non, même pas. Mais...
Roland Pérez nous a rejoint. On est ravis de vous accueillir. Roland Pérez.
Salut Roland.
Vous êtes le héros de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui est un livre que vous avez signé aux éditions Les Escales, qui est un livre qui est votre histoire. Est-ce que déjà dans le livre tout est vrai ou est-ce qu'il y avait un début de fiction?
Ah non, non, bah, autant quand on écrit sa vraie histoire, qui était déjà...
On peut embellir les choses, on peut...
Ah non, je n'ai pas cherché non plus... D'abord, je ne savais pas que ce livre est un succès, je voulais juste dire merci à ma maman, parce qu'on ne dit pas merci à ses parents, on vit à côté d'eux, on pense que vivre à côté d'eux et de s'occuper d'eux et d'être avec eux, c'est déjà une forme d'hommage et de remerciement, mais je n'ai jamais formalisé véritablement le merci, et quand ma mère est partie... voilà, je n'y ai pas tout de suite pensé, et quand j'ai été déchargé un peu de ce secret de mon éducation, de mon traitement, de ce que j'avais connu quand j'avais de 0 à 7 ans,
je me suis combat, dit
de mon, du combat, ouais. et du rôle qu'avait joué, le rôle surnaturel qu'avait joué Sylvie Vartan dans cette histoire, quand j'ai pu révéler cela, je me suis dit qu'il était temps peut-être de dire merci à ma maman, et c'est pour ça que j'ai commis ce livre au départ, et je ne pensais pas qu'il connaîtrait cette suite absolument incroyable.
Quand on écrit un livre qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, quand on a fréquenté Sylvie Vartan, on demande des autorisations, on l'appelle, on la prévient, on lui fait lire peut-être le premier script, le premier livre avant qu'il soit publié.
En fait,
parce que j'imagine que vous avez gardé des rapports. Vous avez été son avocat?
Oui, je suis toujours son avocat.
Ah, toujours aujourd'hui?
Oui, bien sûr, je suis toujours son avocat, je suis son ami. En fait, pendant des années, lorsque je travaillais pour Sylvie, je ne lui ai jamais révélé cette histoire, parce que je la trouvais dingue, parce que je trouvais que...
C'est ce qu'on voit dans le film.
Comme dans le film, ouais.
Oui, c'était impossible pour moi de lui dire. Oui. J'ai tellement peur qu'elle pense que je suis un fan. J'ai été un fan totalement fou, qui a essayé d'intriguer, qui a essayé de conspirer pour essayer d'arriver...
Bah, surtout de rentrer dans son intimité.
Oui, dans son intimité.
Et dans les secrets de ses contrats.
Oui,
et de,
exactement. Ouais, donc je me suis dit, et c'est pour ça que j'avais interdit à ma mère de le lui dire.
C'est dur, c'est
film.
Dur.
Et ma mère ne comprenait
c'est
pas.
Tellement
comme,
dur.
Comme le dit, comme le joue extrêmement bien Leïla, et c'est extrêmement troublant quand elle dit mais on lui a pas fait de mal à cette femme. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On a tout fait. On a acheté ses disques. On était au spectacle. Qu'est-ce qu'on lui a
on
fait?
On lui a donné de l'argent.
Je lui ai dit mais maman, ce n'est pas possible. C'est liaison fatale. Comme Jonathan aussi. Je ne sais pas comment il a fait pour entrer en moi. Je ne sais pas. Et donc quand Sophie d'avant.
J'ai rien,
sinon. Ça va.
Quand Sophie d'avant, qui est jouée par Ariane Massenet en fait, mais quand Sophie d'avant va révéler véritablement à Sylvie Vartan cette histoire, moi je suis totalement démuni. Je me suis dit bon, c'est la fin, c'est fini. J'ai été comme si j'avais été démasqué de quelque chose que j'avais pas fait, mais je me suis dit c'est fini.
Et Sylvie, ce qui est étonnant, c'est que vous ne saviez pas que Sophie d'avant était au courant en fait.
En fait non, parce que ma mère, Sophie est vraiment venue voir ma mère.
Ah oui, on raconte tout le film.
En tout cas,
Roland
a le droit de raconter le film.
Leïla, le livre est sorti avant aussi.
Oui.
Tout le monde l'a pas lu. Ouais.
Non, c'est vrai.
Mais ça donne.
Non, mais il y a pas de.
Ça donne. C'était en vanne hein, que je disais.
Leïla, tout le monde ne l'a pas lu.
Non, tout le monde l'a pas lu, mais Roland, vous allez voir, ça va relancer les ventes.
Mais ça va relancer.
J'ai cru comprendre que Roland était pas très aimé.
Vous avez écouté l'émission.
C'est l'humour, c'est Roland.
J'ai décidé de vous appeler Jacqueline.
Yes. Yes. Ah, j'adore le clash. J'adore l'idée. Vous voulez... tout à l'heure, j'ai dit que la seule envie que l'on ait à la fin du film, c'est de dire merci à ses parents, c'est d'embrasser ses enfants en se demandant si on ne va pas trop loin dans l'ingérence finalement aussi, et si on n'est pas des boulets dans la vie. Ça vous va si on a ce genre de sentiment après avoir...
Bah écoutez, moi j'ai commis un troisième livre qui s'appelle Bonne fête des mères papa, où je suis une véritable Esther, c'est-à-dire que je refais ce qu'a fait ma mère avec nous, c'est-à-dire quand j'ai perdu ma femme, je suis devenu une Esther bien malgré moi.
Face à l'absence d'une mère, c'est comment...
Voilà, comment je me suis dit qu'il fallait que je sois papa, maman, mais en fait j'avais Esther en moi. Hein, et voilà, donc on refait les mêmes choses. Alors, est-ce qu'aimer trop les gens? Vous savez, il faut avoir une dose d'irréalité, une dose d'amour énorme pour pouvoir faire ce que fait Leïla dans le film, ce qu'a fait ma mère. Et puis, il y a des effets indésirables, comme tous les médicaments qui nous guérissent. Il y a des effets indésirables qui sont un peu des excès, mais ma mère était très excessive, mais elle était irrésistible. Mmh. Et c'est aussi ça, aussi, les
elle
mères,
a fait de vous
les pères
un avocat.
Aussi.
Elle avait fait de vous un avocat. Elle vous a appris à plaider.
Ah oui, je me suis beaucoup inspiré de ces effets à la vitesse de la lumière, de ces montées dans les aigus, dans ces absolument.
Est-ce que c'est Sylvie Vartan qui a fait de vous un auteur?
Sylvie Vartan, elle m'a construit, oui, elle m'a construit. J'ai beaucoup, 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 beaucoup regardé Sylvie Vartan. C'est-à-dire que ces pochettes de disques où il y avait quatre chansons, j'avais rien à faire de la journée. Je regardais ses cheveux, ses yeux, ses dents écartées. Je regardais les quatre chansons qui étaient derrière. J'ai appris à lire et à écrire avec ses chansons. Donc oui, elle m'a construit d'abord parce qu'elle m'a permis d'apprendre à lire et à écrire. Elle m'a permis d'éviter d'être placé dans des familles d'accueil parce que les services sociaux commençaient sérieusement à s'inquiéter de l'éducation que j'avais reçue.
Mais vous encouragez à écrire le roman.
Et elle m'a, oui, alors elle m'a pas encouragé. Elle m'a dit simplement, d'abord, elle n'était pas d'accord sur le titre. Quand je lui ai dit ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est mon éditeur qui a trouvé le titre. Moi, je comptais l'appeler M'chic Pala, je te donne ma vie.
Ah, ouais, c'est ça, moi,
et l'éditeur m'a dit, on va pas en vendre beaucoup, Roland. Je suis désolé, ça va pas intéresser grand monde. M'a dit, votre vie est un triptyque, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et donc, quand j'ai été voir Sylvie, je lui ai dit, Sylvie, écoute. Et elle m'a dit, ah non, 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 surtout pas Dieu à côté de moi, c'est pas possible. Mais il y avait son mari qui est américain, je lui ai traduit en américain.
Tony Scotti.
Et il m'a dit, Tony Scotti, ouais. It's an amazing title. Et là, tout de suite, la messe parfait. Était dite et le titre est devenu...
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, le roman est publié aux Escales, les Escales éditions. Et puis le nouveau roman, comme vous l'avez dit, Bonne fête des mères, papa. Il sait faire la promo. Bonne fête des mères, papa, signé Roland Pérez. En tout cas, votre vie est bouleversante et elle va ensoleiller beaucoup de vies après avoir vu ce film. Merci. Et vous avez raison, formidablement interprété par nos invités. Jusqu'à midi et demi, ils sont là. On parlait de germano-suisso-allemand. Le voici, c'est Bruno Péquet.
Allemand d'origine. Coucou mes petits vieux préférés. Eh ben ça va vous rassurer, mais selon une étude commandée par l'ONU, la jeunesse ne serait plus la période la plus heureuse de la vie.
Ah non.
Eh ouais, quelle belle nouvelle pour les jeunes. Enfin un message d'espoir. Ah bah tu vois notre vitalité à Lisa et moi, tu te dis heureusement que c'est pas notre prime. En fait, on assiste à un immense changement dans la manière dont on voit le bonheur en Occident, parce que jusqu'à maintenant, on pensait que le bien-être tout au long de la vie avait une structure en forme de U, comme une vie de merde. Quand on était jeune, on était au top. Dans la quarantaine, on était dans la fameuse crise éponyme. Puis après, on remontait la pente vers une vie plus sage et confortable. Mais maintenant, tout a changé. Fini la structure en U. On fait des crises de la quarantaine beaucoup plus tôt. La preuve, je viens d'utiliser le mot éponyme. Voilà, je suis en plein dedans. Juste après la chronique, je vais m'acheter un cabriolet et larguer ma copine pour en prendre une de 20 ans de moins. Donc, je vais clairement aller en prison. Mais bref. En tout cas, plus jamais je veux entendre qu'on est une génération de fainéants. On a révolutionné au moins une chose, la vision du bonheur. Voilà, on fait des crises de la quarantaine à 20 piges. T'es mal à précocité. On est les Lamine Yamal du mal-être. 20 is the new 40. Bon, ça fait plus quand t'as un bon accent, mais bon. Allez, revenons à l'étude. Les jeunes vont mal. Ouais, vous l'avez pas lu, mais je vous spoil la fin. Hein. C'est pas comme s'il y avait un méga suspense. Qui l'eût cru ? Pas d'argent ni de taf. La crise climatique. Les Baudins se ressortent un film. Je veux dire, qui aurait pu deviner, quoi ? Heureusement que l'ONU est là pour se pencher sur ces problèmes complexes et surtout oui. Ravie d'apprendre qu'en ce moment, elle est un peu chill et qu'elle a rien d'autre de plus urgent à faire. Non, mais si vraiment c'est là-dessus que vous voulez faire votre dernière étude avant d'être dissous par Trump sur un coup de tête, bah roulez jeunesse, comme on dit. Hein. Mais prochaine fois, l'ONU, donnez-moi l'oseille. Je vous fais un résumé très clair de la vie et du bonheur. En gros, plus tu vieillis, moins t'as de temps à vivre dans ce monde, mieux tu te sens. Voilà. Et c'est même pas de moi, c'est le théorème dès le moitié. Et du coup, si l'on devait quand même cibler un âge d'or, le meilleur âge serait 45 ans. Voilà. Bingo. Jonathan Cohen, Leïla, 2025. C'est votre année. Et puis Leïla, 45 ans d'âge, c'est pas que du whisky. Et c'est vrai qu'à vous voir, ou plutôt, en vous comparant à certaines personnes autour de la table, vous n'avez pas l'air d'être les pires. Voilà. Je vais pas dire à qui je pense, mais si au hasard, on prend Nagui. Dès 45 ans, voilà, c'était en 2006, la naissance de Twitter, les manifs contre le CPE et le coup de boule de Zizou, ça devait être le délire, quoi. Tu peux difficilement faire mieux. Bon, il y a bien les 45 ans de Daniel Morin, hein, Napoléon couronné empereur, éradication de la peste. Peut-être c'est lui qui gagne, mais il n'est pas là pour nous en parler, il est trop occupé à écrire ses mémoires. Alors concrètement, pourquoi ces résultats ? On pourrait croire que les jeunes sont moins heureux à cause du Covid. Mais non, c'était déjà le bordel avant, voilà, pas besoin d'un virus pour nous foutre en l'air, on est autonome là-dessus. Ce serait principalement à cause d'Internet. Et c'est vrai que c'est un fléau, hein, constamment tu vois des trucs qui sont pas bien pour ta santé mentale. L'autre jour, j'ouvre Instagram, je tombe sur cette vidéo de Brut.
L'immense tragédie qui va tomber sur nos enfants et sur nous-mêmes dans l'addiction à cette cochonnerie qui s'appelle le portable.
Ça faisait 40 minutes que j'étais sur mes toilettes en train de scroller, j'avais des fourmis dans les jambes et je tombe là-dessus. Ça m'a ouvert les yeux, hein. Direct j'ai quitté Instagram, puis je suis allé sur TikTok et j'ai continué de scroller. Le truc qui me saoule le plus avec cette étude, c'est qu'en fait, les boomers avaient raison. C'était mieux avant. Après, j'ai une théorie. Je pense qu'on va si mal parce qu'on est obligé de cohabiter avec des gens qui pensent que c'était mieux avant. Comme quand, encore une fois, tout est de votre faute, les vieux. Je sais que c'est pas forcément vrai, mais laissez-nous au moins croire ça. Ça nous aidera peut-être à aller mieux. Et on peut se consoler en se disant une chose. Au moins, c'est tellement la merde maintenant que nous, quand on sera vieux, on pourra jamais dire c'était mieux avant. Et rien que ça, c'est une bonne nouvelle.
Merci. Bravo. Jean-Guy Bassureau nous a rejoint. De quoi vas-tu parler dans la prochaine demi-heure?
Je vais vous parler de certaines stars de YouTube, des influenceurs voyage qui se filment en Afghanistan avec les talibans. Ils font des photos, ils se checkent des super mecs d'après eux.
Ça sera après les infos.
Comme le jour vient après la nuit, et le soleil toujours après.
Demain au cinéma, allez voir avec plaisir, avec les membres de la famille aussi, ça fera du bien. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Leïla Bekti, Jonathan Cohen, tout ce beau monde à l'affiche de ce film réalisé par Ken Scott. C'est l'histoire vraie de Roland Pérez qui était notre invité également tout à l'heure, avec Joséphine Japy, avec Sylvie Vartan dans son propre rôle, Jeanne Balibar, Lionel Drey, Naïm Nagy, Milo Machado Graner et Anne Leni qui est absolument formidable également. On en parle jusqu'à midi et demi. Bonjour, oui, original avec Rilou. Bonjour, Isa de Moitié, Laura Domange, Tanguy Passureau, Bruno Petit, Oldelaf, et nos invités, Jonathan Lambeau et Leïla Bekti.
France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
La Maritza, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne.
Elle est dans le titre, elle est dans le film, mais surtout elle représente l'impossible, l'intouchable, l'inabordable, le rêve qui devient un jour réalité. C'est son moteur à cet enfant, Leïla Bekti. Hein.
Ah oui, elle a participé complètement à la guérison de Roland, pardon. Mais Roland d'ailleurs me disait, le vrai Roland, me disait qu'il y avait deux femmes qui avaient sauvé sa vie, c'était sa mère et Sylvie Vartan.
C'est fort comme phrase.
Ouais,
quand même.
C'est fort.
Et
ouais.
Comme responsabilité, on peut comprendre que Sylvie soit gênée d'être accolée à Dieu dans le titre ou dans le du roman ou
mais
du
elle
film.
Est tellement humble, Sylvie. Elle est. J'ai parlé beaucoup, j'ai échangé beaucoup avec elle sur Roland. Elle me disait mais je me suis jamais rendue. Enfin, elle se rend pas vraiment compte encore de l'impact qu'elle
mais
a
pardon,
eu.
Pardon, mais comme vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur le public qui vient vous voir, qui est touché par votre jeu, par vos vannes, la flamme et le flambeau. Enfin, tout ça, il y a plein de choses. Vous ne vous rendez pas compte
de l'impact
que vous avez.
On attend ma mère, Dieu et Leïla Bekti.
Non, mais c'est vrai. Non, mais sincèrement. Après, c'est une responsabilité qu'on veut peut-être ne pas assumer aussi.
Moi, j'en ai pas conscience quand ça me concerne.
Avoir conscience. On se rend jamais compte de l'impact ou de la manière dont les gens vont s'approprier quelque chose.
Sinon on pète un câble, c'est sûr. Mais quand c'est le cas, le fait qu'on vous dise, on vous l'a déjà dit, que vous faites du bien, c'est rien que ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Commençons par changer une journée avant de changer une vie. Mais en tout cas, ça fonctionne. Le bouleversement, ce qui vous a plu dans cette histoire, au-delà qu'elle soit vraie, Jonathan Cohen, c'est quoi? C'est pas une comédie à 200% comme un délire comme vous le comme
il
vous fou, le faites.
J'ai pris
une vraie pause.
Une vraie pause de radio en plus. Hein.
Écoutez, c'est le rapport à la mère que je vous dise. En vrai, de pouvoir. Moi, quand j'ai lu le scénario, ça m'arrive jamais.
Je me suis endormi.
J'ai dormi. Non. Et ça faisait deux jours que j'arrivais pas. J'étais en assaut. Non, mais j'ai pleuré à chaudes larmes. M'a touché en plein cœur cette histoire. Le rapport avec la maman, avec le rapport avec le papa, tout ça m'a véritablement chamboulé.
Je veux juste souligner, souligner que ce n'est pas un film triste, mais c'est un film bouleversant. Non, mais la nuance est importante.
Vous avez raison.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller en se disant
ça va être triste.
Je vais pleurer. Non, on est bouleversé, mais au bon sens du terme.
C'est drôle. Voilà. C'est drôle. Il y a plein de moments où c'est drôle. Elle rentre dans cette chambre, tout le monde est là, elle discute, elle dit rien, silencieuse. Tout d'un coup, elle pète un câble. Il faut avoir eu une mère comme ça un jour dans sa vie pour comprendre que cette scène est à pleurer. De rire, en fait. Elle est exceptionnelle, c'est un ouragan, quoi.
C'est un ouragan.
Non, ça fonctionne.
Nicolas, c'était de l'amour, on ne le savait pas. C'est la vie.
C'est la vie.
Qui nous prend.
Qui nous prend.
Beaucoup de musique, les cœurs. Beaucoup de musique dans ce film. Billy Preston, oui.
Viens de le découvrir. Exact.
Vous devriez aller voir le film, Jonathan.
Il faut absolument, tout le monde me le dit.
Ça vous souvenez quand même. Salut aussi Joséphine Japy, on en a pas assez parlé.
Oui, on l'adore. Elle est absolument,
qui est
génial.
Qui est solaire, qui est magique, rayonnante.
La lumière.
Et elle aussi bouleversante. Mmh. Et elle aussi bouleversante. Bref, ce film, vous l'avez compris, on a aimé, vous allez l'adorer comme nous. Ça sort demain au cinéma. Voici Temps, et ça s'appelle donc Dieu...
Non, ma mère.
Ma mère, ouais, Dieu, Sylvie Vartan.
Ouais, mais on peut le faire aussi. Ouais. Hein.
C'est le jour du tiercé. Hein. Ouais.
Ouais. Voici, je crois à Tanguy Passion.
Hier, après l'émission, je suis rentré à temps pour voir le JT de 13h de France 2. En fait, j'ai déjà la vie que j'aurai quand je serai retraité. Ensuite, j'ai fait des mots mêlés avec mon chien sur les genoux. C'est comme un plaid, mais qui pue. Le JT de 13h le lundi, comment vous expliquez à vous qui travaillez? C'est comme le JT de 13h du week-end, mais sans Leïla Kadour. À la place, ils ont mis un mec. Julien Bugier. Ah, il est pas mort, le patriarche. Il y avait un sujet sur Anne Hidalgo, parce que c'est important de parler de santé mentale. Elle a fait mettre des palmiers partout sur la place de la Concorde. Ce qui avait l'obélisque, donc elle s'est dit, on part sur une thématique Égypte. Hein, elle va finir aux Galeries Lafayette à la conception des vitrines. Égypte, donc palmier, voilà, je pense qu'à terme, elle va déplacer la statue de Dalida, foutre autour des chats qui se lèchent et Nagui qui se lèche pas. Parce qu'à 63 ans, quand on arrive à faire ses lacets, hein, c'est qu'on est déjà au top. Donc tout le reste, on met l'idée de côté. J'ai repassé un certain âge, on se lèche plus, on bave. C'est la même différence qu'il y a entre le barrage de la Rance et les chutes du Niagara, quoi. Dans le JT de la 2, il y a aussi une page politique. Julien Bugier a pris son air sérieux, ce qui lui fait la même tête que quand il est en pleine déconnade. Hein, parce que le problème avec les beaux mecs, c'est qu'ils ont une palette d'émotions restreinte. Alors que moi, ou plutôt Old Laugh, on voit quand on n'est pas content et quand on n'est pas bien. Hein, et parfois, on est même ailleurs qu'ici. Alors Bugier a expliqué que François Bayrou rejetait le retour de la retraite à 62 ans. C'est dommage. Si c'était revenu, Nagui, depuis un an, vous y seriez. On aurait pu regarder le JT de France 2 ensemble. J'aurais pris un plus grand chien pour qu'il tienne sur nos genoux à tous les deux. Et pour justifier son choix, Bayrou dit, c'est à cause du contexte international, l'effort de guerre. Il va nous faire les poches. Il y a 20 ans, il mettait des claques aux gosses qui lui faisaient la même chose, donc là, il va finir par s'automutiler, le malheureux. 66 000 dépôts de bilan en 2024, des impôts records, même les auto-entrepreneurs qui font 14 euros en vendant des bracelets brésiliens, ils sont en train de les saigner. On est tous là à raquer, pendant que Google, Chine et Meta versent à l'État français un pourboire. Eh, franchement, ça me révolte. La vérité, c'est que, guerre ou pas, on est plus ou moins ruinés. On nous avait dit que c'était les Mozart de la finance, des gens qu'on a mis en haut de la pyramide. Résultat, ce sont les André Rieu de l'erreur de connexion à Boursorama. Alors maintenant, j'y réfléchis. Faire reculer l'armée russe à pas cher, c'est possible de la part de l'Europe. Vous envoyez sur le front les participants aux prochaines Eurovision, à la quatrième diva slovaque qui glapille sur la techno-lituanienne, il n'y a plus un russe sur le champ de bataille. Bref, hier midi, je me suis dit, il n'y a plus d'avenir en France, il faut se barrer de ce trou. Donc j'ai pris un planisphère, en fait les magnètes le gaulois de la carte du monde que j'ai sur le frigo, il me manque la Birmanie parce que je suis devenu végétarien avant de la voir. J'ai fermé les yeux, j'ai avancé le doigt et je suis tombé sur l'Afghanistan. Alors là, pour le coup, quand on est un homme, ah, c'est génial, c'est open bar. Parce que les femmes n'ont pas le droit de travailler, ce qui fait que chaque homme a 5 jobs. On te dit tu fais quoi dans la vie? Tu réponds moi je suis plâtrier, assureur, pilote de ligne, PDG et boueur. Et ta femme, bah, elle repasse mes costumes, c'est du 7 jours sur 7 gros. D'autant que mardi j'ai un entretien pour devenir maître sushi, ça va bien lui ajouter 5-6 tabliers. Bref, j'ai pointé le doigt sur l'Afghanistan, j'ai eu envie d'en savoir plus et en tapant le nom de ce pays sur le net, je suis tombé sur un reportage de BFM sur des influenceurs américains qui y vont. Ils sont nombreux parce que c'est sulfureux comme voyage. Je veux dire par rapport à la Vendée par exemple. Hein, le seul truc qui peut arriver en Vendée, c'est si vous avez des points noirs, d'être confondu avec une brioche vendéenne aux pépites de chocolat. Hein, vous voyez quelqu'un arriver vers vous avec un couteau, c'est pas pour vous planter, mais juste parce qu'il a envie de vous tremper dans son café. Ce qui est gênant, mais si vous n'avez pas encore pris votre douche, ça passe. Bref, il y a des influenceurs voyage qui partent en Afghanistan, ils filment le pays. Alors j'ai regardé, en fait, c'est magnifique. Il y a de la montagne, des grands lacs, mais il y a aussi des talibans. Hein, ces gens qui, sur l'échelle de la sympathie, qui va de 0 à 10, sont quand même à moins 24. Moi, vous voyez, c'est ce qui me retiendrait quand même d'aller en Afghanistan. J'ai des gens qui ont quand même privé les femmes du droit de parler. Ça peut être des types qui adorent le calme et qui supportent que les voix graves. Hein, si ça se trouve, Christophe Willem aussi là-bas est cancel. Mais j'en doute. Seulement, ces influenceurs-là, dont le Canadien, alors Nolan Saumur, qui a 700 000 abonnés sur YouTube, une star quoi, eh ben il les fréquente et pire, il les valide parce qu'en vidéo, il fait des photos avec eux et il a même fait du pédalo. Vous vous rendez compte, les talibans font du pédalo. Ils ont la même vie que nous qu'on avait dans les années 70. Peut-être qu'ils portent aussi des slips à poche et qu'ils se cachent pour écouter Stone et Chardin parce que la musique est interdite. Énergie Kaboul, c'est quatre mecs qui parlent du nouveau single de Sabrina Carpenter sans pouvoir le diffuser. L'équivalent des émissions de foot sur RMC, mais avec du contenu. Donc Nolan Saumur, dans une de ses vidéos intitulée L'Afghanistan a trop de testostérone, décrit même la joie de n'être qu'entre mecs. Il dit, je cite, c'est une véritable fête de la saucisse. Ce qui est le terme sans doute le moins approprié pour parler d'un pays qui applique les lois de la charia. Je veux dire, ça revient à dire à des protestants, allez-y, on chante tous la pitchouli. Tout ça pour vous dire que si Insta, YouTube avaient existé en 42, on aurait peut-être vu Philippe Pétain, Philou SS, sur Snapchat, faire des vidéos depuis Berlin. Wesh, les frérots, je suis avec Pierre Laval, Pierrot. Hein, on est d'accord qu'il y a des gens super ici. Voilà, donc mon conseil aux influenceurs, allez plutôt en Vendée, les femmes, ils sont libres et il y a de belles brioches. Je m'excuse pour cette phrase, bravo. Elle aussi sortie des années 70.
Ouais. Tony Bastureau, demain soir à Ifto et ce sera le 27 mars au Casino de Toulouse. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan au cinéma demain avec Leïla Bekti, avec Jonathan Cohen, réalisé par Ken Scott, très bien réalisé par Ken Scott. On a beaucoup parlé aussi de votre jeu, de l'histoire, mais c'est un objet, c'est un spectacle, c'est réussi. En tout cas, que ce soit dans l'interprétation, la direction, le rythme aussi, parce que ça va extrêmement vite, c'est plusieurs vies racontées en une heure et demie et c'est réussi parce que c'est à la fois drôle et bouleversant. C'est demain au cinéma. D'autres événements culturels, Leïla.
Oui, si je vous dis Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson ou encore Matt Damon, de quoi
L'Odyssée.
Je parle ? Absolument, bravo. C'est le casting de L'Odyssée de Christopher Nolan. Récompensé par 2 Oscars pour Oppenheimer et qui avait généré quand même 1 milliard de bénéfices, un film qui valait le coup d'être lancé. Donc il se lance dans l'Odyssée, 24 chants, ce grand poème, ce récit fondateur, avec ce retour tumultueux de cet homme, Ulysse, pendant 10 années. Et pour incarner donc Ulysse, qui a fait un très long voyage, absolument. Pour incarner Ulysse, ça sera Matt Damon. Une photo a été dévoilée, on le voit avec son matériel de combat. Pénélope, ce sera Anna Taoué. Télémaque, Tom Holland, Zendaya quant à elle sera Athéna et Charlize Theron pour l'instant sera Circé. Casting 5 étoiles
de ouf.
Qui promet découverte de ce film, il faut attendre juillet 2026, ça vaut bien le coup. Tournée en partie en Sicile, je pense que le cadre s'y prête particulièrement. Il y a des castings comme ça de films qui font absolument rêver. Est-ce qu'il y a un film en particulier qui pour vous à la fois réunit un casting de rêve, une mise en scène, une réalisation, presque le film parfait en réalité?
Le Parrain.
Ouais.
Ouais, Le Parrain.
Le Parrain.
Le Parrain 2. Le Parrain. Aussi, ouais, c'est vraiment un super
casting. Non, mais dans les films, votre cinéphilie à vous, qu'est-ce que vous aimez en particulier? Ça oriente sur un genre ou plutôt sur des acteurs qui font qu'à chaque fois ils emportent le morceau ou des metteurs en scène?
Moi, j'ai eu une période David O. Russell. Vous voyez, ce réalisateur, oui. Happiness Therapy, The Fighter. Il a enchaîné 2-3 films. Mais, enfin, que je trouve incroyable avec Christian Bale, notamment, qui revient souvent dans ses films. Et il y avait une espèce de vérité. The Fighter, c'était trop bien. Ouais, c'était trop, trop bien. Et des performances d'acteurs et des histoires qui sont surprenantes. Voilà.
Vous arrivez tous les deux à voir des films sans analyser comment ils sont joués, interprétés, le
boulot
des acteurs.
Ah oui, moi j'ai complètement gardé mon âme de spectatrice.
Ça dépend des films. Il y a des films où, que justement, quand t'es emporté par l'histoire, tu ne vois rien, et d'autres, quand tout d'un coup il y a des petits trucs, là pour le coup, t'es plus analytique et t'es là, c'est un truc de montage.
Oui, mais c'est parce qu'au départ, ça t'a pas
accroché.
Oui, absolument. Tu as raison.
Et on va vous demander des exemples et de films sortis très très rapidement parce que ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Non, Leïla, vous continuez à regarder ça avec.
Ah oui, après, évidemment, comme une spectatrice, il y a des films, je passe à côté ou je. Mais c'est vrai que. Non, j'ai besoin d'être emportée. J'adore être emportée. En fait, l'idée de me dire que ce film ou ce dialogue ou cette musique a été quand j'ai la bêtise de penser que ça a été fait pour moi, et je trouve que c'est merveilleux.
Au point d'avoir envie de raconter vous-même des histoires.
J'ai envie d'en raconter, mais peut-être autrement. Là, je pense à plein de choses. Non, mais peut-être qu'un jour je réaliserai un film, j'espère. Mais pour l'instant, je lis des livres, je fais d'autres trucs.
Autre question, on va parler de la série la plus regardée au monde sur Apple TV.
Elle met en flamme.
Severance.
Absolument, il est incroyable.
Il est connecté l'autre jour. Hein.
Severance qui met en scène des employés de la Lumon Industry, qui, cette entreprise, introduit une puce dans leur cerveau pour dissocier leurs souvenirs de la sphère privée et de la sphère pro. Ouais. Comme ça, ça leur permet d'être au travail et de n'être qu'au travail. Et quand ils sortent de là, en prenant un mystérieux ascenseur, ils rentrent chez eux et en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, on pourrait se dire c'est un métier secret défense.
C'est pas mal, ça, comme pitch. Oui, alors, comment s'appelle, tu dis ?
Severance.
C'est réalisé par Ben Stiller.
Il a 4 ans, ce pitch, hein, avec Carnegie.
Ouais. Excuse-moi, je travaille, j'ai pas le temps moi de glander sur Netflix.
C'est ça, c'est bon. C'est sur Apple déjà, donc.
Raison plus.
La saison 2 vient de sortir. C'est Ben Stiller qui réalise et c'est Adam Scott qui tient le rôle principal. Il y a Patricia Arquette aussi dans le casting. Et on a appris récemment que Barack Obama avait décliné l'invitation de Ben Stiller pour jouer un petit personnage, un caméo. Et c'est Keanu Reeves qui a pris la succession. Severance, la série la plus regardée au monde sur Apple TV quand même, et qui emporte absolument le morceau en ce moment de partout. Les critiques sont unanimes. Je pense que même The White Lotus est complètement détrôné par cette série que vous connaissez bien.
Ouais, White Lotus, là je suis en train de regarder la saison 3. Pour l'instant je suis un peu perplexe. Hein. Ouais. J'attends qu'il se passe un truc. Saison 1, saison 2, j'étais assez fou. Saison 2, j'étais au max de l'intrigue, on va dire.
Donc, déçu.
Et là c'est... Non.
C'est ça.
La saison 3. Oui, la saison 3. Il finit toutes mes phrases, du coup je suis perdu.
Ah ben je fais n'oublier pas les paroles, moi.
Ah bah oui, c'est vrai.
Donc déçu par la saison 3.
Ouais, un peu pour l'instant. J'attends qu'il se passe un truc, vraiment.
Alors que Severance, c'est vraiment le phénomène du moment.
Ouais, absolument.
Vous regardez un peu les liens des séries.
Bah, pour être hyper honnête, Severance, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
Et ben c'est Tar qui est en train de regarder la saison 2, lui il adore, et je lui disais ah ouais, et là du coup ça, c'est toi Leïla qui m'a donné envie.
Voilà.
Toi, ton highlight de série, c'est quoi les séries que t'aimes? Je suis un peu chroniqueur.
Moi, Succession, la fin c'était 4 saisons, c'est ça la fin du dernier épisode de la 4e saison, j'ai pleuré de finir.
C'est fini, de quitter.
Ah mais moi j'ai adoré cette série, j'ai adoré Soprano. Oui. The Wire, c'est vraiment les
Soprano le chanteur, ça. Pas la série. On peut le dire.
J'aime beaucoup le Soprano le chanteur.
On l'aime beaucoup aussi.
Soprano,
The Wire, ouais.
Ah, Clown. Soprano la série, c'était.
Vous allez tourner dans Changer l'eau des fleurs, adaptation du best-seller de Valérie Perrin, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Clin d'œil à la chanson de Victor Laszlo.
Ah.
Changer l'eau des fleurs.
Vous croyez ? Non ?
C'est lié avec la mort et les cimetières, je pense, surtout.
Et c'est, oui, mais c'est, je ne connaissais pas cette chanson, j'adore.
Ah, décidément, vous découvrez beaucoup de chansons aujourd'hui, avant l'émission et après l'émission aussi. Bref, vous l'avez tournée ou vous êtes en train de le tourner ?
Non, je commence début mai.
Oh. Yes.
Donc oui, c'est, effectivement, c'est l'histoire d'une gardienne de cimetière. Mm. Et voilà, elle va être traversée par le... Enfin, c'est comment... retrouver la lumière au milieu des morts. Enfin, c'est sublime comme
c'est Jean-Pierre
livre,
Jeunet.
Et puis Jean-Pierre Jeunet.
Bah ouais, bref. Ouais. Bah ouais, carrément. Et puis réalisé par Clément Cotentin sur Prime Vidéo.
Comme un léopard. Allez, tenez-vous la main. Tenez-vous la main. Allez, tenez-vous la main.
Les mots vont être furieux, quoi.
Et tout est parti d'une invitation d'Aurel San, c'est ça ?
Ouais.
C'est l'inverse, en fait, qui s'est passé.
Complètement.
C'est lui qui vous a invité.
Ouais, et c'est parti loin. On va pas se mentir.
Très loin.
C'est 6 ans d'aventure, déjà, avec ce personnage de Fucking Fred. Et voilà.
Qui pourrait faire une tournée, qui pourrait faire des concerts, qui
pourrait faire plein de choses, des bars à tapas, plein de choses. En fait, c'est à 360, hein, on voit large. Hein.
Et plusieurs business. Et Marc et Leïla.
Marc et Alexandra.
Je disais, on dit souvent que il n'y avait que l'amour d'Esther pour surpasser l'amour d'Alexandra.
Ouais, c'est pas faux.
Mais Alexandra, elle est toujours là,
Alexandra.
Est-ce qu'il y a une troisième après Flamme et Flambeau? Est-ce qu'il y a un autre projet?
Pour l'instant, j'ai mis ça un peu en stand-by parce que je vais reprendre un peu le sport de haut niveau. Et,
Mais c'est la meilleure vanne de la journée.
Pour l'instant, j'étais un peu un sport à moyen niveau.
Mais c'est quoi? J'ai d'attaquer direct.
Ouais, j'attaque direct le haut niveau. Dans un sport que j'ai jamais fait. Et du coup, je vais voir ce que ça donne.
Quel talent.
C'est des expériences.
Et même à direct, sans entraînement, premier match, championnat du monde.
Moi, je pense que c'est intéressant de le vivre. Et de voir comment on se démerde là-dedans.
Qu'une fois, surtout.
C'est un one shot. Voilà, C'est mon
ne
visage.
Ratez pas les 5 premières minutes. Que sont les lionnes?
Ah, les lionnes, c'est...
sur Netflix
sur... Alors ouais, c'est ça, c'est une série faite par Olivier Rosenberg qui est sur des braqueuses qui sont passées pour des hommes. Et qui ont par nécessité de se mettre à faire des braquages. Et ça, c'est une série
Rebecca
Marder, Zoé Marshall, tant de
Aïdraïadi. Et François Damiens, c'est vous
François Damiens.
En victime ou quoi?
Non, on va dire François Damiens en politique véreux et moi en simple karatéka qui veut se cacher. Excusez-moi de mélanger le sport à tout. Hein,
mais c'est vrai, t'es karatéka,
Non, pas du tout. Ah,
ça serait très drôle.
J'essaye de mettre ça un peu dans les cerveaux pour qu'on m'imagine. Simplement.
L'âme idéale, premier long métrage d'Alice Vial également. Vous avez fini ce tournage?
Oui, on a fini ce tournage, ouais.
Et quel est votre personnage?
Pareil, un gars du sport. Mais qui travaille chez Decathlon. Mais voilà, qui conseille les gens. Non, mais c'est un... Je suis parti là-dedans. C'est une belle comédie romantique, un peu.
Merci, Jonathan. Allez, merci. Non, et puis, je le rappelle.
Mais moi, j'aime ça. Il faut me faire ça tout le temps. Moi, je suis client.
Le 22 mars prochain, à 17h30, une masterclass dans le cadre du festival Série Mania. Ça se passera à Lille. Mais la masterclass la plus belle, c'est de vous voir jouer au cinéma.
Amour sur vous,
Jonathan. Absolument. Avec ce film, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, des excuses à présenter.
Oui, Lénag. Désolée déjà pour Jonathan Lambert qui, on peut le comprendre, n'a pas apprécié d'être confondu avec, je le cite, un acteur surestimé au jeu ampoulé et addiction bancale, obsédé par le sport, on ne sait pas pourquoi en plus. Non, mais dans le langage showbiz, c'est de l'amour et du respect, bien sûr. Ensuite, désolée pour Jonathan Cohen qui, on peut le comprendre, n'a pas apprécié d'être confondu avec, je le cite, un humoriste en bout de course dont la carrière est au niveau de son charisme. À nouveau, que de l'amour et du respect. Enfin, désolé pour Jonathan, de David et Jonathan, qui n'a pas été confondu ni avec Jonathan Cohen, ni avec Jonathan Lambert, ni avec Jonathan Serrada, souvenez-vous, ni avec Joss Jonathan, d'ailleurs. Enfin bref, on pense fort à lui.
Bravo. Merci mille fois, bravo, Elsa de Moitié. Merci Leïla Bekti, merci Jonathan Cohen, ma mère, Dieu, ici Vartan, et bravo à toute l'équipe et à Ken Scott pour ce film réussi, bouleversant, drôle, intelligent et qui va changer vos rapports au sein de la famille. C'est ça qui est fort, c'est l'objet, c'est un bel objet et un très beau film. Demain, rendez-vous dans cette bande originale avec Dominique Raymond et William Lebguil pour
William, on l'adore.
Le film où, malheureusement qui est la dernière présence de Michel Blanc au cinéma. Passez une belle journée sur Inter.